Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en direct de Nantes pour le congrès USH des HLM. On va parler tout de suite rénovation énergétique du parc des logements sociaux en rappelant les enjeux de rénovation énergétique, bien sûr la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quels sont les outils de connaissance et d'analyse de la performance énergétique du parc locatif, mais également quels sont les dispositifs de soutien mis à disposition, enfin les enjeux pour cette rénovation. C'est l'ensemble de ces sujets que nous allons parcourir avec nos deux experts du jour. Je suis ravi d'accueillir Yannick Page. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous êtes chef de bureau à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGALN, direction générale d'aménagement du logement et de la nature. Et vous êtes en compagnie de Benoît Chantoiseau. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Chef de bureau également à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGALN. Bienvenue à vous, Benoît, qui vient de terminer une conférence passionnante. Voilà, beaucoup de public, beaucoup d'affluence sur le stand du gouvernement. On démarre, messieurs, tout de suite sur ce. Ben voilà, ça préoccupe tout le monde, hein, cette rénovation, et elle est peut-être encore plus cruciale pour ce qui concerne les logements sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler les enjeux avec vous, Yannick? On démarre sur ces enjeux de rénovation énergétique, notamment, on le sait, pour l'ensemble du parc de logements, c'est considérable. Et puis, bien sûr, en fond, on entend aussi cette question des passoires thermiques. Donc, il y a urgence quelque part.
Oui, tout à fait. Donc, la loi climat résilience a institué différents seuils. Donc, à partir de 2025, les logements G deviendront interdits à la location. 2028, les logements F et 2034, les logements E. On a pu effectivement en entendre parler un petit peu dans les médias. C'est un enjeu non négligeable. On a quand même aujourd'hui, donc, sur l'ensemble du parc, 5,2 millions de passoires énergétiques et dans le parc social. Alors, le parc social qui est en meilleur état que le reste du parc de logement, mais 460 000 passoires thermiques. Donc, il y a tout un enjeu effectivement à pouvoir les traiter dans les délais. C'est F et G d'ici 2028 et les G, donc, comme on le disait, d'ici 2025.
2025, c'est demain. Hein.
Et 2025, c'est vrai que ça arrive effectivement très très vite, d'où l'enjeu effectivement de les traiter, ce que les bailleurs ont commencé à faire, et d'où les outils que l'on va présenter ensuite pour le faire.
Alors, un calendrier tellement serré qui donne lieu à quelques passes d'armes, notamment sur le calendrier. Voilà, hein, il y a eu des rumeurs sur un éventuel décalage. Finalement, il n'en sera rien. Donc, on tient bien cette date de 2025. C'est très compliqué parce que ça veut dire, Benoît, que quelque part, on pourrait assécher aussi une de logement à l'heure où bah, il n'y en a déjà pas beaucoup.
Oui, absolument, et c'est pour ça qu'on essaye de se préparer au mieux à affronter cette marche, cette vague qui va arriver. Yannick vient de le rappeler, c'est un peu plus de 160 000 logements à rénover à très très court terme, 600 000 logements en plus d'ici 2034, uniquement sur finalement les seuls logements qu'on connaît. On sait que en se basant sur les déclarations des bailleurs, on sait qu'on a de l'ordre de 750 000 logements en plus pour lesquels les bailleurs ne renseignent pas les informations, et donc qui dit marche dit nécessairement aide de l'État. Et pour moi le vrai premier enjeu qu'on va avoir pour absorber cette vague, c'est un enjeu de connaissance, quelque part, de connaître le parc des bailleurs pour estimer les besoins, estimer les travaux et mettre en place finalement toute l'ingénierie autour de ce besoin, vérifier la capacité à faire des bailleurs, y accoler les aides nécessaires pour de soutien au secteur. Et donc je voulais vraiment rappeler notamment aux bailleurs qui nous écoutent au congrès USH le besoin de renseigner les enquêtes qu'on peut mener, le besoin de nous apporter des informations. C'est des informations qui seront utiles pour nous sur le dessin de perspective de résorption, le dessin d'enveloppe financière dans nos négociations aussi avec Bercy, dans tous ces sujets là on a vraiment besoin. Oui. Et c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent, sur un énorme besoin de connaissances aujourd'hui qui nous manque et qui est nécessaire pour vraiment construire une politique publique ambitieuse.
Bien sûr, une fois de plus, on voit la qualité de la data, de la donnée, hein, c'est crucial. D'ailleurs, quand on a ces chiffres, hein, on parle de 5 millions, 460 000, est-ce qu'on est sûr, est-ce que c'est précis, ou est-ce qu'on peut aller plus loin dans la granularité, savoir exactement qui va être demain G, F, E, etc.
C'est un point effectivement qui est très important. Aujourd'hui, on se base sur des estimations issues de modélisations effectuées par le service statistique du ministère. On a des bailleurs acteurs qui ont commencé, et c'est très bien, depuis l'été 2021, la mise en place du nouveau DPE. Donc vous savez, un nouveau DPE avec une échelle carbone, et enfin une échelle plutôt une consommation énergétique d'une part, énergie primaire, et puis émissions de gaz à effet de serre. Mais le nombre de bailleurs qui les ont fait, ces nouveaux DPE, est encore assez réduit, si bien qu'on on se base sur des modélisations. Mais
c'est une projection finalement de l'existant, ceux qui ont fait déjà du déclaratif ou du moins qui ont fait le calcul, et on se dit à l'échelle, on multiplie, mais c'est une espèce de cote mal taillée, si je puis me permettre.
Il y a déjà un petit peu ça, et puis le fait surtout que les bailleurs ne sont donc pas conscients qu'ils ont finalement peut-être plus de passoires que ce qui était initialement à leur connaissance. Alors il y a déjà l'effet du DPE vierge ou DPE facture. Avant 2021, il y avait des DPE pour le bâti ancien avant 48 qui pouvaient être établis sur facture et donc qui n'étaient pas opposables et qui ne rendaient pas compte finalement de la performance énergétique réelle du logement. Donc il y a beaucoup de bailleurs qui n'ont pas forcément conscience de leur nombre de FEG. Et puis il y a un enjeu aussi sur lequel je voulais insister, on parlait de rénovation énergétique, il y a aussi l'enjeu de décarbonation du parc. Oui. On est dans un contexte où on doit lutter contre le réchauffement climatique de façon active et il y a tout un sujet de choix aussi des solutions de chauffage après rénovation, passer sur des solutions décarbonées, ça aussi c'est un grand enjeu dans un parc social qui est quand même très collectif.
Voilà. Oui, mais ça c'est, et j'ai l'impression que c'est plus une vie de l'esprit hein, puisque on est début octobre, on avoisine les 28 degrés, donc tout le monde peut se rendre compte que là il y a quand même urgence à changer un petit peu notre logiciel. Justement, je voudrais parler avec vous messieurs des outils de connaissance et d'analyse de la performance énergétique. Les outils sont là, est-ce qu'ils sont utilisés? On va détailler quels sont d'abord ces outils et enfin voilà, on va voir s'ils sont bien utilisés ou peut-être les rappeler à nos auditeurs également. Les différents outils, par exemple les sources d'informations mobilisables, quelles sont-elles?
Alors ce qu'on peut démarrer effectivement par dire, c'est parler du répertoire du parc locatif social, qui est quand même la base principale. Donc Benoît l'évoquait tout à l'heure, il est largement rempli, mais peut-être pas encore suffisamment. Il y a encore un certain nombre de logements pour lesquels on n'a pas la donnée qui puisse remonter. Alors, parfois c'est parce que les bailleurs n'avaient pas pu établir de DPE. Oui. Un logement par exemple qui n'a pas changé de locataire depuis 2007, ça peut arriver. Un DPE vierge, donc comme on le disait, un DPE pour lequel il n'y a pas eu de facture.
C'est pas obligatoire, on est d'accord, aujourd'hui il n'y a pas de...
C'était pas obligatoire jusqu'en 2021 de faire un DPE. Aujourd'hui, ça le devient, mais les bailleurs ont un certain délai pour le faire. Les anciens DPE restent valides jusqu'à fin 2024, mais il y a un enjeu vraiment à ce qu'ils puissent assez rapidement, mais ça dépend aussi de la capacité des diagnostiqueurs à répondre à la demande, faire ces diagnostics pour connaître l'état de leur parc et ainsi anticiper, mener leur stratégie de décarbonation et de rénovation énergétique.
D'accord, pas besoin d'attendre la deadline du 2024, bien évidemment. RPL, il y a aussi l'enquête OPL de l'USH.
Oui, voilà. Alors, c'est une des enquêtes, effectivement, qui nous permet d'avoir des infos sur le nombre de rénovations qui sont faites chaque année par les bailleurs. Ça reste une enquête, néanmoins, qui donne une idée du flux. En fait, on a une idée du stock, finalement, un petit peu avec RPLS, mais qui reste imparfaite, vu qu'on a un certain nombre de données non renseignées, 800 000 DPE, je crois, non renseignées de mémoire. Et puis, une donnée sur le flux avec 100 000 rénovations par an, dont, je crois, aux alentours de 80 000 avec changement d'étiquette. Mais ça reste quelque chose d'encore un petit peu insuffisant par rapport aux besoins pour tracer les évolutions du parc.
Il y a d'autres bases de données qui existent, la base DPE de l'ADEME par exemple, encore la base CSTB.
Exactement. Alors là, pour le coup, ce sont les modélisations que l'on évoquait. Alors, la base DPE de l'ADEME, c'est une base de collecte. Donc, tous les niveaux DPE sont collectés. Elles ne donnent pas une vision intégrale du parc. Mais par contre, à partir de celle-ci, c'est justement celle qu'utilise le service statistique du ministère pour avoir recomposé ce parc avec le nouveau DPE et estimé à 460 000 le nombre de passoires énergétiques du parc social. C'est déjà donc très bien. Le CSTB a lui aussi créé une base de données nationale du bâtiment qui donne une estimation plutôt à 490 000 passoires. On est à peu près dans la même zone. On a réussi à documenter à partir des anciens DPE qui existaient une vision du parc tel qu'il devrait être avec les nouveaux DPE, grâce aux années de construction, grâce aux énergies d'alimentation des logements. Par contre, effectivement, voilà, c'est une vision statistique qui ne remplace pas le fait que le bailleur lui-même ait connaissance de son parc et puisse ensuite engager sa politique de rénovation. C'est, nous, ce qu'on a intérêt à faire, c'est effectivement engager, accompagner les bailleurs dans cet effort de réalisation de leurs nouveaux DPE.
D'accord. Et puis, il y a aussi les travaux exploratoires menés en matière de trajectoire de rénovation du parc social. Donc, vous en parliez. Et puis, peut-être le besoin d'une enquête complémentaire, par exemple l'enquête Alenium. De quoi s'agit-il?
Oui, absolument. En parallèle de ces besoins que Yannick a rappelé de 450 000 passoires thermiques à rénover à très court terme, 600 000 logements de plus à rénover d'ici 2034, on a cherché à travers une enquête menée conjointement avec l'USH, Salon Lay, de voir finalement si les bailleurs étaient prêts à cette marche. Donc on a lancé une enquête tout l'été. Il s'avère que, donc en demandant aux bailleurs quelles étaient leurs perspectives de résorption de leurs passoires thermiques, il s'avère que les résultats sont assez mitigé, hein, puisque les bailleurs nous remontent de l'ordre de 55 000 logements à rénover par an d'ici 2030, ce qui est une marge qui est assez importante quand même, il faut rendre à César, mais qui ne sera pas suffisante malheureusement pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, donc 450 000 plus 600 000, plus d'un million de logements à rénover dans les 10 ans.
On serait pratiquement à moitié moins.
Par ailleurs, on a aussi demandé, et il faut que ça nous interroge aussi, nous, sur les leviers d'action qu'on aura, si les bailleurs étaient prêts à absorber cette vague. On se rend compte que finalement, sur les 430 bailleurs qu'on a interrogés, on a interrogé tous les bailleurs, sur les 430 bailleurs qui nous ont répondu, qui représentent quand même 95% du parc, on a 96 bailleurs qui nous indiquent qu'ils risquent de ne pas pouvoir tenir leurs objectifs, et 3 qui nous disent déjà, dès maintenant, qu'ils ne sauront pas les tenir, qu'ils ne seront pas capables. Et par ailleurs, plus d'un bailleur sur deux, c'est-à-dire 250 bailleurs sur 430, nous indiquent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dotés d'un plan de décarbonation, et 53 bailleurs nous indiquent qu'ils ont besoin d'aide pour construire ce plan. Et donc ça va poser aussi la question, au-delà de l'accompagnement aux travaux, à la rénovation, très certainement un besoin d'accompagnement dans l'ingénierie,
bien sûr,
et la décarbonation.
Donc on comprend bien, sur l'ensemble des bailleurs, beaucoup ne sont pas encore prêts, ou d'autres finalement disent attention, ça risque de coincer au niveau des financements. Justement, ça fait la transition avec le rappel des dispositifs de soutien. Et ils sont nombreux, qui sont mis à disposition des bailleurs, on verra si c'est suffisant ou pas, mais je voudrais avec vous qu'on fasse justement, qu'on les descende ensemble. Yannick, quels sont-ils?
Alors effectivement, déjà, les bailleurs sont nombreux. Alors l'étude qu'avait menée l'Encols montre que de nombreux bailleurs les connaissent, mais finalement tout le monde ne les sollicite pas, ils sont parfois jugés un peu trop complexes, mais il ne faut pas hésiter. L'USH, pour le coup, met à la disposition une aide aux bailleurs pour solliciter ces dispositifs. Donc on a les certificats d'économie d'énergie, oui, avec des dispositifs de coup de pouce pour la rénovation performante à la fois des maisons individuelles et des immeubles collectifs. Et là, c'est vrai que l'avantage d'un bailleur social, c'est qu'il peut, vu que c'est un immeuble en monopropriété, facilement piloter l'ensemble de la rénovation pour l'immeuble, avec quand même notamment si on installe de la chaleur renouvelable, des bonifications assez intéressantes. Là, je donne quelques exemples. 11 000 euros pour la rénovation d'une maison individuelle de surface habitable de 110 mètres carrés occupée par un ménage modeste. Donc on a quand même des aides non négligeables liées au certificat d'économie d'énergie. On a aussi le nouvel éco-prêt, logement social, donc qui est un prêt bonifié dispensé par la Caisse des dépôts. Depuis le 26 juin dernier, donc on a fait évoluer les critères, donc avec une demande systématique d'installation d'un système de chauffage décarboné dans les maisons individuelles, mais parallèlement une évolution à la hausse des montants de prêts par logement qui peuvent atteindre désormais jusqu'à 33 000 euros dès lors que le gain énergétique évidemment, oui, réalisé à l'issue est très très ambitieux. Donc voilà, on met en place effectivement pas mal d'éléments pour les aider, et d'autres dispositifs aussi.
Et en soutien, pour le coup, en soutien aux opérations, ben le Fonds national des aides à la pierre a mobilisé en 2023 200 millions d'euros, ce qui est pour certains peut-être pas suffisant, mais qui représente déjà une somme, qui sont en fait 200 millions en reconduction de l'enveloppe du plan de relance qui avait été débloqué en 2021-2022, qui avait permis de rénover 48 500 logements. Pour l'année 2023, on a donc 200 millions, 185 millions qui doivent permettre de rénover 36 à 37 000 logements, c'est-à-dire des passoires thermiques F et G, pour les amener à minima à un niveau d'étiquette minimum C. Et puis, et je voulais le signaler, 15 millions pour une expérimentation qu'on a menée conjointement avec le FNAP, le Fonds National des Aides à la Pierre, qui est le dispositif, une expérimentation seconde vie, c'est-à-dire l'ambition de remettre des logements anciens, des logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, au standard du neuf, avec à la fois cette nécessité de rénovation de la passoire thermique, des logements F et G, pour les amener à des étiquettes minimum B, mais aussi une vraie réflexion sur la qualité de l'usage des logements, la qualité des parties extérieures, des réflexions sur le confort d'été, sur l'ajout de balcons par exemple. On a eu des beaux projets avec vraiment du confort, la vraie rénovation de logement, sur la prise en compte de la perte d'autonomie, sur un certain nombre de sujets, avec cette idée de, le dispositif porte bien son nom, seconde vie, de finalement remettre aux normes actuelles des anciens logements, et finalement y accoler les mêmes aides que l'État peut mettre sur l'offre nouvelle, en se disant ça doit être demain plus intéressant pour un bailleur de vouloir rénover son parc plutôt que de le démolir et de le reconstruire.
Bien sûr.
C'est une préoccupation qu'on a.
Ça serait contre-productif puisqu'on sait que la construction est bien sûr émettrice de carbone. On voit aussi, on mesure toute l'ambition, Benoît, parce qu'on ne parle pas de gagner une ou deux lettres. Hein, là, c'est carrément aller jusqu'en B, c'est-à-dire on sera tranquille vraiment pour des années. Et puis, bien sûr, économie aussi à long terme, puisque le coût de l'énergie a flambé, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un investissement, mais qu'il faut voir comme amorti dans la durée.
Absolument, je pense qu'on l'objectif qu'on doit collectivement se fixer, c'est malgré tout la rénovation de l'intégralité des logements d'ici 2050 pour tenir notre trajectoire. Et à ce compte-là, mais j'empiète un peu sur les plates-bandes de Yannick, à ce compte-là, il me semble plus cohérent d'aller directement chercher des étiquettes, des performances élevées. Plutôt que de revenir faire des travaux qui sont des travaux lourds, hein, malgré tout. On parle de travaux d'immeubles, de travaux d'extérieur, c'est-à-dire au moins 6 mois, 1 an oui. D'échafaudage autour des immeubles pour les locataires. Quand les locataires peuvent rester, c'est jamais évident. Donc vraiment, cette ambition d'aller de s'inscrire déjà dans une trajectoire 2050 et puis d'aller chercher les meilleures étiquettes possibles pour ne pas revenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, rénover encore des logements. On aura suffisamment à faire avec les 30 millions de logements qu'il y a en France pour se dire rénovons une fois pour toutes, rénovons bien et passons au logement suivant et remontons les performances de l'intégralité du parc français. Mais je m'avance sur tes plates-bandes.
Il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai que c'est pour confirmer ce que tu évoques. En l'occurrence, le fait de rénover en une seule fois, non seulement peut être plus économique, mais en plus est plus efficace dans le sens où à chaque fois que on met en place une étape, finalement, une étape intermédiaire dans la rénovation, on risque de créer des problèmes au niveau des interfaces entre les différents lots, entre les différents travaux d'isolation,
corps
finalement,
de aussi, ouais.
Les corps de métier, mais par exemple les fenêtres, moins bien gérer l'isolation si elle est faite, si le remplacement des fenêtres est fait avant de mettre en place l'isolation. Il y a tout un enchaînement des tâches très particuliers qui doivent être respectées, et c'est vrai que le faire en une seule fois est beaucoup plus efficace, oui. Efficient à la suite aussi.
Alors vous m'éclairez parce que c'est ce qui s'est passé dans la résidence où j'habite, mais dans Paris, c'était juste avant la crise sanitaire. C'est important de le dire parce que je pense que le prix de l'électricité, du chauffage n'aurait pas la facture énergétique. N'aurait pas été la même. Et effectivement, ils ont commencé par l'extérieur avant de faire les huisseries et de changer toutes les fenêtres. Et c'est vrai que ça pouvait paraître étonnant. Au début, on se dit mais pourquoi ? Parce que l'isolation phonique n'était pas terrible. Donc au niveau des travaux, je confirme, ça dure 6 mois, surtout quand c'est des grands ensembles. Mais ensuite, on est quand même beaucoup mieux et on vit aussi, surtout, beaucoup mieux. Alors, 2050 a été cité, ça c'est l'objectif ultime. Si on se focus juste pour terminer sur la période 2023-2030, ces enjeux, on l'a compris, ils sont immédiats. Donc c'est une plus grande traçabilité, d'avoir effectivement une granularité aussi dans qu'est-ce qui doit être fait et à quel moment et pour qui. Il y a d'autres choses qui doivent être faites, par exemple, on l'a dit, rénovation cohérente pour aller jusqu'à la classe B, et puis développer des solutions de chauffage aussi alternatives au gaz, parce que ça aussi c'est sur l'agenda, hein, c'est le gaz, on doit pouvoir s'en passer, et pour d'autres raisons que purement géopolitiques.
Oui, exactement. Alors, il y a quand même les raisons géopolitiques qui entrent en ligne de compte. Mais ouais. Effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, très clairement, le réchauffement climatique, on en parlait en début d'entretien. L'Union européenne a souhaité être exemplaire à ce sujet-là. Donc, on a un objectif au niveau national, enfin au niveau européen même, de réaliser moins 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc chaque État membre va devoir effectivement décliner cela. Et donc derrière, on a un objectif derrière d'accélérer les rénovations énergétiques et la décarbonation du parc de logements existants. Et c'est vrai que le parc social, qui est exemplaire déjà hein, par rapport à son niveau, on le disait, beaucoup moins de passoires thermiques quand même que dans les autres parcs de logements.
Ça fait moins de 10% finalement.
Oui, entre 8 et 10, grosso modo, donc c'est très intéressant. Mais raison de plus pour montrer l'exemple et d'aller vers la décarbonation, on a un parc qui est encore très gaz, alors ce qui peut se comprendre, puisqu'on est sur des immeubles collectifs et que l'installation de systèmes de chauffage décarbonés est difficile. Mais il faut expérimenter des nouvelles technologies, ça commence à se faire pour le coup. Il faut aussi, alors il y a des sujets qui concernent les bailleurs sociaux, des sujets qui nous concernent nous aussi, c'est aussi travailler avec les ministères de la Culture, ce qu'on est en train de faire justement pour favoriser l'acceptation de systèmes de chauffage qui ont parfois des sorties extérieures, comme les pompes à chaleur, c'est nécessaire, qu'on accepte qu'effectivement en façade, on ait des équipements peut-être qui changent un petit peu l'allure de la façade, mais pour pouvoir justement décarboner plus largement dans les bâtiments collectifs. C'est le gros enjeu parce que c'est difficile de On n'a pas forcément de place dans les bâtiments collectifs d'installer des ballons à chaude, c'est nécessaire dans le cadre d'un système à énergie renouvelable pour le chaude sanitaire. Et puis les fameux compresseurs, les groupes froids à l'extérieur pour les packs RO ou RR. Et là, voilà, c'est le sujet. Donc on y travaille, évidemment, dans le respect des bâtiments anciens. On en a beaucoup. On a 37% des logements, selon les statistiques du SDES, qui sont, et alors je parle de tout logement confondu, tout parc, hein, privé social, qui sont dans des zones protégées, ABF, aussi de patrimoine remarquable. Donc il y a tout un enjeu, effectivement, à travailler la faisabilité de rénovation responsable dans ces territoires pour justement avancer dans ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
Ouais, et sans dénaturer, effectivement, peut-être l'architecture des immeubles, faire complètement cacher ces packs, ou trouver des, voilà, d'autres systèmes pour que ça reste aussi et agréable à l'intérieur, mais aussi joli de l'extérieur. Eh bien, on en sait un petit peu plus, effectivement, sur ces enjeux, sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des logements sociaux. On l'a dit, en tout cas, en avance, 8-10%, ben voilà, l'enjeu, c'est de continuer à baisser et assez rapidement. En tout cas, les enjeux sont là, la route est tracée, et puis on aura aussi prochainement, je pense, d'autres mesures, hein, sans doute pour 2024, mais ce sera l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, un grand merci à nos deux spécialistes, Yannick Page, chef de bureau, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGLN, et merci à Benoît Chantoiseau, chef de bureau, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, toujours à la DGLN. Un grand merci, messieurs, à très bientôt sur Radio Territoria.
Merci beaucoup.
Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.